Bonjour à tous, vous écoutez la Ligue des joueurs ordinaires. Bonjour et bienvenue dans cette 21e émission de la Ligue des joueurs ordinaires, votre rendez-vous mensuel sur Radio Kawa. De quoi parle-t-on dans la Ligue des joueurs ordinaires, mon cher Christophe ?
Eh bien, on parle de jeux.
De jeux ? Uniquement de jeux ?
Ouais, du jeu.
De jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de rôle, de grandeur nature, de tout ce qui touche au jeu et au monde ludique. Et nous sommes très contents d'en parler tous les mois sur Radio Kawa. Et autour de moi pour cette 21e émission, nous avons plein de chroniqueurs. Mais je commence par Christophe, vous l'avez déjà entendu. Comment vas-tu, Christophe ?
Très très bien, c'est l'été.
C'est l'été, à quoi tu joues pendant l'été, Christophe ?
Je fais pas mal de gros plateaux en ce moment.
Ouais.
Et dont un dont je vais vous parler tout à l'heure, donc je ne commence
teaser,
pas.
Teaser. En face de toi, nous avons Satan. Bonjour, Satan.
Bonjour, Zef.
Comment vas-tu ?
Ça va, bien, tranquille.
Hâte d'être en vacances aussi ?
Bah, comme tout le monde, je crois.
Hâte d'être en GN ?
Aussi.
Ah, ça arrive à grands pas. Les projets ont commencé.
En fait.
Et à côté de moi, nous avons Eriamelo. Bonsoir, Eriamelo.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ça va bien. Envie d'être en vacances comme tout le monde.
À quoi tu joues en ce moment ? C'est quoi ton poison ?
Outlive.
Outlive ?
Ouais.
Ah oui, Outlive, faut dire.
Outlive, ouais, survivre. Ouais, j'en ai fait deux le week-end dernier et j'en probablement un la semaine prochaine.
Ouais, gros jeu. Hein. On a parlé le mois dernier dans la Ligue des joueurs et c'est un gros jeu qui nous a beaucoup plu. Et à côté de moi, mon ingé, son favori. Bonsoir, Kétrus.
Salut, Zef.
Comment vas-tu ?
Bah, ça va bien, merci.
Voilà. Tout est dit. Alors, Kétrus ne sera pas chroniqueur ce soir, mais se permettra d'intervenir quand il aura envie. On fera un point Kétrus par moment. Il nous dira ce qu'il pense des jeux auxquels il a testé et que nos chroniqueurs vont nous parler. On va commencer par un petit sommaire rapidement. On va commencer bien sûr par les coups de cœur, coups de gueule du mois. Ensuite, on aura une petite actu du Spiel, on dit Spiel, hein,
c'est Spiel,
du Spiel par Christophe. Ensuite, on attaquera le Meeple sur un plateau avec deux jeux, Terraforming Mars, un petit teaser de Christophe, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est un gros jeu, mais très 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 bon jeu. Et Rien Mello nous présentera ensuite Century, la route des épices, et après dans l'évasion rôlistique, Satan nous parlera de 1%, percent. Et tout de suite, on commence avec les coups de cœur, coups de gueule. Qui veut prendre la main là tout de suite ? Je lance en l'air, qui la prend ? Allez, Eriamelo, il est pointé du doigt, désigné volontaire.
Oui,
c'est quoi,
moi,
un
mon
coup de cœur ?
Petit coup de cœur, c'est un petit jeu qui vient de sortir. C'est la traduction d'un jeu japonais qui s'appelle Sherlock 13, d'un jeu de Hop Elsewong, illustré par un Français vivant en Corée, Vincent Dutray, qui est moi un de mes illustrateurs de jeux préférés.
Ah, carrément.
Ah, il a vraiment un bon coup de crayon. C'est un des rares qui illustre tout encore au pinceau, au crayon et pas du tout à la tablette graphique.
Ah oui, d'accord, un sacré taf de base.
Ouais.
C'est quoi ? Ça parle de quoi ? Enfin, Sherlock, on imagine.
Sherlock 13, il y a un crime, il y a 13 coupables. À nous de trouver le coupable, sachant que 12 vont être distribués. Le 13e, c'est forcément le coupable. Il y a des symboles. C'est un peu à la Cluedo. Ça dure 10 minutes la partie et...
D'accord, un Cluedo en 10 minutes, je crois que c'est un record battu. Et c'est, on peut jouer à combien ?
Alors 2 à 4, 2 c'est une adaptation de règle, mais disons que le chiffre idéal c'est 3 et 4.
D'accord, j'aime pas quand ils font ça, des jeux qui se jouent à 3 ou 4 et qu'ils adaptent des règles pour faire un jeu à 2, autant ignorer le truc parce que finalement tu t'amuses un peu moins non, à 2 j'imagine.
C'est plus tactique, la déduction elle est beaucoup plus rapide à 2, faut surtout pas faire d'erreur de déduction à 2.
D'accord.
Je pense surtout que c'est une question de marketing parce qu'il faut pouvoir le vendre et que c'est quand même mieux de dire que tu peux jouer à 2 que de dire bah non il faut être 3.
Si oui, mais c'est dommage.
Ouais.
On s'en tire pour combien si on achète ce petit jeu ?
15 euros, grand max.
D'accord, il y a du matos, c'est pour annoncer que des cartes.
Il y a 13 cartes et 4 écrans.
D'accord.
Et il y a un bloc de notes pour noter nos déductions.
Classique shit, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt cool. Ok, on va passer à Christophe qui va faire son petit coup de cœur, j'imagine. Il me regarde avec des beaux yeux, là, je pense que c'est un coup de cœur, forcément.
Ouais, c'est un coup de cœur. Alors, vous avez déjà parlé il y a quelques mois de Flamme Rouge, le jeu de course vélo, qui était un de mes coups de cœur, qui reste un de mes coups de cœur. Et justement, là, on m'a fait découvrir il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a même quelques jours, une application qui a été développée parce qu'il y a des règles de grand tour qui ont été créées. Les règles grand tour, c'est pour essayer de simuler un Tour de France. On va faire plusieurs parties. Chaque partie va faire partie des étapes, comme un vrai Tour de France. Et avec ça, il y a tout un système de scoring de points et de temps. Et justement, le gars en question, donc, il s'appelle Benoît Gourdin, il a fait une appli sur Android et iPhone qui fonctionne super bien, qui est super joli, qui est autorisé par, par l'éditeur, l'auteur, etc.
Sympa.
Et qui est justement pour pouvoir jouer aux règles du Grand Tour. Voilà, on va pouvoir faire une course comme on veut, on peut décider de faire 2-3 étapes, voire jusqu'à 10 étapes. Donc là, c'est très très long, hein, 10 étapes, c'est quand même 6-7 heures de jeu. Et ça va calculer tous les points pour ensuite déclarer le grand vainqueur du Tour de France. Et ça, moi, franchement, je trouve cette idée super bonne. Et en plus, ça va tout simplifier parce que les calculs ne sont pas toujours évidents. Et là, c'est nickel.
D'accord. Il a, du coup, il a fait des règles supplémentaires pour ça.
Alors, les règles ont été créées par des fans du jeu.
D'accord.
Et ont été validées par l'auteur. Et justement, ce gars-là, à partir de ces règles-là, en a fait une appli.
C'est sympa.
Et donc, on enregistre ses équipes, puis après, on enregistre les parties. Ce qui est vachement bien avec les règles de Grand Tour, c'est ça, c'est qu'on compte à la fois, il y a les points de victoire pour ceux qui arrivent des trois premiers de chaque étape, mais il y a aussi tout un calcul, pas simple au départ, sur celui qui a le maillot jaune.
D'accord.
Qui fait le meilleur temps. Et du coup, toutes ces règles-là sont intégrées dans l'appli et ça calcule tout d'office.
D'accord, sympathique. L'appli est gratuite, j'imagine.
L'appli est gratuite.
Évidemment. Voilà. Donc, une belle initiative.
Et ça s'appelle Flamme Rouge Companion.
D'accord, belle initiative. On peut applaudir ça. On le fera pas à la radio, évidemment, mais c'est une belle initiative. On aime bien quand les auditeurs, c'est pas nous directement, pas vous directement, mais bon, quand les fans d'un jeu s'impliquent comme ça. On passe à Satan qui a il fait un bigou. Ce mois-ci, il fait un coup de cœur, coup de gueule. Il enchaîne les deux, il met deux claques et il fait des galins derrière.
Non, alors je vais d'abord commencer par le coup de cœur, mais c'est un big one.
D'accord.
Dans un mois, c'est l'ouverture des inscriptions pour Ultime Western 2018.
Yes. Voilà. Oui,
c'est tout,
oui.
C'est mon coup de cœur.
Ça, c'est un gros coup de cœur, voilà. Ouais, effectivement.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un GN qui se passe donc dans le sud de l'Espagne, à Almeria, là où il a été tourné certains westerns, etc. Et pendant 4 jours, on est donc dans une ville western à vivre comme des cow-boys. Et c'est un très, très, très bon GN.
Très bon, très bon. Le décor est fantastique. Il faut parler qu'il y a tout le désert à côté. On peut faire des heures et des heures.
Ouais, il y a des aires de marche. En plus, bon, alors, je vais en arriver à mon petit coup de gueule qui correspond justement pour montrer combien celui-ci est bon. Parce que bien sûr, le côté cow-boy, etc., c'est une question de goût. Hein, voilà. C'est mon coup de gueule, c'est par rapport à d'autres GN. Où, je suis désolé, je sais que je vais faire des mécontents. Mais alors, en tant que créateur moi-même de nos événements, enfin même Kétrus pourra confirmer, quand on écrit quelque chose, on organise quelque chose, il y a toujours des merdes. Il y a toujours des problèmes techniques, il y a toujours du retard, etc.
C'est ce qui prouve que ça fonctionne, en général.
Que ça fonctionne ?
Bah, s'il y a des merdes, c'est que tu t'investis,
ah oui,
c'est
oui,
que
oui,
voilà,
bien
c'est
sûr,
un côté
voilà.
Très
oui.
Positif.
Après, je suis prêt à pardonner. Je veux dire, c'est un énorme boulot de faire un GN, tu vois. Je comprends qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais bon, quand au premier, on dit que oui, bon, on s'excuse, mais c'est parce qu'on a eu un problème technique. Je veux bien. Quand la deuxième fois, on dit que oui, bon, on a eu des problèmes, mais c'est parce que vraiment, on n'a pas eu de chance, quoi. Il y a eu un problème technique. Je pense qu'à un moment, faut quand même réaliser que quand tu fais une erreur à répétition, c'est pas technique, c'est pas parce que t'as de la malchance, c'est parce que t'es mal organisé, quoi.
D'accord.
Et il y a tellement de GN où à chaque fois je lis que bon, on s'excuse, mais c'est pas vraiment notre faute, en fait.
Mais tu parles d'une erreur spécifique que t'as en tête,
non,
ou c'est
non, ça fait plusieurs GN que je fais où à chaque fois t'as les orgas qui s'excusent, mais c'est pas vraiment leur faute, quoi.
D'accord. Et j'aimerais une erreur de scénario, qui peut être une erreur d'organisation, de perte de temps.
Ça s'appelle une erreur d'organisation et il faut faire attention à ce que ça ne se reproduise pas, tu vois.
Ouais.
Pour moi, ça me paraît logique et j'ai horreur de ça, de lire à chaque fois c'est pas notre faute parce que l'imprimante est tombée en panne. Moi aussi, l'imprimante est déjà tombée en panne quand j'ai fait quelque chose. Enfin voilà, et t'essaies de te démerder au dernier moment, tu voilà. Et j'en reviens à Ultime Western. Un truc que je me suis rendu compte, c'est que déjà, les BG étaient super bien écrits.
Ouais.
Que quand on y a été, la dernière, il y a eu un problème technique par rapport aux restaurations, tout ça. Ça a été réglé très vite.
Ouais.
Et je me suis rendu compte qu'un bon GN bien organisé, quand les orgas sont tranquilles, peinards, parce qu'ils ont tout prévu, et ben les joueurs, ils sont tranquilles et peinards.
Oui, finalement, ça, en fait, le problème, ouais. du problème technique, du problème d'organisation que tu amènes, c'est qu'effectivement, c'est le joueur qui empathie très, très souvent, et c'est lui qui s'énerve sur une bêtise et qui passe un mauvais jeu ou un mauvais événement.
Quand tu vois que si tu as un souci parce que quelque chose n'est pas clair et que tu vas passer 2 heures de ta vie à faire la queue pour avoir un orga qui est débordé, qui ne va pas pouvoir te répondre parce qu'il est saoulé, parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Ça t'arrange pas ton GN.
Ouais, bien sûr, voilà. Toujours pareil. Le pouvoir de délégation parfois sur les joueurs est un peu trop important. Du coup, on leur fait porter un peu le chapeau pour n'importe quoi, pour le problème d'organisation. Ok, merci pour ce petit tour de table. Christophe va reprendre la parole pour nous parler du Spiel.
Oui, le Spiel de Descartes, donc c'est le Grand Prix allemand et qui a une grosse influence en Europe. En tout cas, il a une énorme influence en Allemagne. Et avoir le Spiel pour les éditeurs, même les éditeurs français, c'est très important parce que On sait que les Allemands achètent des jeux en famille, et un jeu qui a le Spiel, il voit décupler ses ventes.
Hein, oui, clairement. Ouais.
Donc c'est vraiment le gros jeu. Et donc on a eu le Spiel décerné le 17 juillet dernier. Le Kinderspiel, parce qu'en fait il y a trois prix qui ont été donnés, a été donné un peu un mois avant. Et donc là, bah voilà, on a enfin les trois titres. Donc on va commencer, on va dire. Progressif. Donc le Kinderspiel, il a été distribué à High School.
Alors précise, le Kinderspiel, c'est pour
donc
les enfants.
C'est pour les enfants, voilà. C'est pour les enfants, donc c'est des jeux 6-8 ans, enfin parfois un peu plus petits, mais pas au-dessus de 8 ans normalement, c'est vraiment du jeu enfant. Et il a été attribué à High School de Brian Gomez. Donc la version française existe, hein, elle a été distribuée par Atalia. C'est un jeu de pichenette où on va. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas joué, vous, à Cannes, non ?
Non.
Moi, j'ai joué dans un café-jeu qu'on connaît, qu'on pratique ensemble. Ah ouais. Et c'est rigolo. C'est avec des petits pingouins ou avec, ouais, avec des murs. Et le petit coup de pichenette, c'est sympa.
Voilà. C'est un petit jeu, voilà, c'est plus pichenette que stratégique, clairement.
Ok. Mais, adresse, quoi.
Ouais, alors adresse, oui, c'est ça. Ouais, un peu ça. Puis alors, c'est marrant parce que le truc est fait pour que ton pingouin, finalement, il va faire beaucoup de virages, etc. Donc tu vas avoir, il faut avoir le coup de main au départ pour trouver le façon
de
faire. Mais il est assez sympa. Ensuite, le Kennerspiel. Donc là, c'est le jeu expert. Donc là, on connaît pas encore, enfin, on connaît que titre. Hein, ça s'appelle Exit. Qui est fait par Inka et Marcus Brand, qui sont des habitués, hein, du Spiel.
De gagner le Spiel.
De gagner le Spiel, tout à fait. Ils ont eu le Kinder en 2013, ils ont eu l'Expert en 2012.
D'accord.
Voilà, c'est ces auteurs allemands qui sont assez réputés.
Ils ont déjà eu le normal, le Spiel pour Turner Taxi.
Ah, bah, je ne sais pas si c'était ça, toi. Ouais. En même temps, ce jeu-là, je t'avoue qu'il n'y a pas eu de VF, je crois.
Hein. Si, il y a eu une VF avec deux extensions, mais c'est du aventurier du rail.
Like.
Ouais, et là, ils ont fait Exit, qui est, on va dire, c'est une sorte de Unlock allemand. Hein,
d'accord.
Puisque c'est clairement du... c'est ça, c'est du l'escape game sur carte.
D'accord.
Donc on ne le connaît pas encore. Enfin, moi, je n'y ai encore jamais joué, sachant qu'il y a une VF qui sortira chez Yellow, qui est annoncée. Alors, contrairement à Unlock, qui a les scénarios de la même boîte, là, chaque scénario s'achète individuellement.
Ouf,
donc, il y a trois scénarios qui ont été faits. Chaque scénario s'achète individuellement.
Bien joué, bravo.
Et par contre, pour ceux qui voudraient l'essayer, il y a une démo print and play.
D'accord, comme Unlock.
Qui est disponible.
Mais c'est bizarre, du coup, Unlock était présenté là-bas au Spiel
non.
Ou pas du tout?
Non. Alors voilà, enfin, on pourra en discuter, juste faire un petit débat si vous voulez après.
Oui,
on
peut.
Mais effectivement, c'est particulier. Et puis, alors du coup, en plus, les Space Cowboys n'ont toujours pas eu de Spiel. Hein.
Oh, bien
ça
sûr.
Fait quelques... Alors cette année, ils n'ont même pas été nominés, mais les années précédentes, ils étaient nominés, mais ne l'avaient pas. Et le Spiel des Jahres.
C'est leur faute aussi, ils présentent le même jeu que des Allemands sur place, quoi. Je veux dire,
c'est
bon,
un peu
voilà,
dur.
Quoi.
Non, mais de là à dire qu'il y a une simili copinage, c'est quand même moche.
Ouais, bon, attention à ce que tu dis, Zef. On a la radio, attention, ouais. Hein, ça peut avoir des conséquences.
Et par contre, Cocorico,
ah.
Le Spiel des Jahres de cette année, il est français, puisqu'il est fait par monsieur Bruno Catala et c'est King Domino.
Tiens,
de Blue Orange. Donc
étonnant.
Là, écoutez, là, moi j'ai vu quelques images de la remise. On voit bien que l'auteur est très, 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 très content de l'avoir.
Ah, tu m'étonnes.
Parce que là, donc, c'est. J'avais beaucoup apprécié.
King Domino,
hein.
Il avait été nominé à Cannes, King
Il
Domino.
Avait été nominé à Cannes, tout à fait, mais il ne l'avait pas eu.
Non, bien sûr.
Il n'avait pas été retenu dans les trois, je crois.
C'est
oui.
Ça.
Ah, Il était dans la sélection.
Il était à la présélection.
Ah oui, d'accord.
Voilà, mais oui, effectivement, King Domino, très très bon jeu, on le sait tous, mais on est très content pour M. Catala, pour le coup, qui arrive à avoir un Spiel, qui doit être super content.
Il est,
mais ouais, étonnant. Ça me choque un tout petit peu pour le coup de l'Unlock, je t'avoue, mais, parce que Unlock était aussi à Cannes, hein, ouais. Il avait été nominé un peu en avance par rapport à sa sortie finalement, mais c'est étonnant.
Mais alors, c'est vrai que les Allemands ont une tendance à distribuer beaucoup de prix aux Allemands. Bon, en même temps, on peut pas dire les As d'Or, c'est pareil, hein. Entre nous, les As d'Or ont beaucoup été donnés à des jeux français. Et effectivement, le Spiel, Alors, le Spiel a quand même eu une influence importante. En tout cas, il y a des époques où il a vraiment annoncé des grands jeux. Hein. Parce que quand on regarde la sélection, déjà l'année dernière, ils avaient fait Codename, Colt Express. Alors, excusez-nous, hein, moi j'adore Colt Express.
Non, voilà. Mais on peut tous se tromper une fois. Hein,
mais par contre, il y a des années, toi, il y a eu Anabi, il y a eu Sherlock Holmes Detective Conseil. Oui, toi, dans les anciennes années, dans les grandes années, ils avaient quand même vu Sherlock Holmes, Les Colons de Catane.
Non, mais c'est quand même super étonnant, enfin étonnant, même amusant, c'est que la mécanique de jeu qui reste celle d'Unlock et de Exit, finalement, est la même, et c'est elle qui est récompensée dans les deux cas. Parce que Unlock a bien eu le l'As d'Or l'année dernière.
Tout à fait.
Et finalement, la même mécanique de jeu a eu le Spiel cette année. Voilà. C'est plutôt bien.
C'est donc on va dire que les jurés ont peut-être privilégié l'innovation.
Oui, non, mais c'est une bonne chose. Je suis content que ce type de jeu puisse finalement avoir un prix et soit vraiment reconnu en tant que tel parce que la mécanique est plutôt intéressante, elle est bonne. Le jeu est très bien, hein, faut le dire, hein, faut dire ce qu'il est. On aime ou on n'aime pas ce type de jeu, mais voilà. Après, le modèle économique est intéressant et permet surtout de faire une rejouabilité super intéressante, donc c'est plutôt cool. Enfin, on est assez content dans l'idée, non ? Vas-y.
D'ailleurs, la deuxième boîte d'Unlock vient de sortir.
Voilà. Enfin, bah, c'est ce qu'ils avaient prévu, ils sont dans les temps. Oh, oui. Ils sont forts, Space Cowboy. Ok, merci beaucoup pour cette petite actu. On va passer au gros de l'émission. Et bah, on va échanger. Je t'avais annoncé, Christophe, mais on va changer. On va donner la parole à Eria Mello qui vient nous présenter Century, la route des épices.
Alors, je vais vous parler d'une gamme de jeux. Century, ça va être une trilogie. L'auteur a présenté un jeu et l'éditeur a décidé, on le divise en trois et chacun sera mixable avec les autres.
D'accord, sympa. C'est un modèle économique encore une fois, mais c'est une bonne idée.
Alors l'auteur, c'est Emerson Matsushi qui avait fait Spectre Ops, l'illustrateur. C'était un jeu que Jedi nous avait présenté avec un jeu d'affrontement où il y a un qui doit échapper aux autres, asymétrique. Là, c'est pas du tout ça. C'est illustré par Fernanda Suarez, celle qui a illustré Dead of Winter.
Très, très, très bien. Très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Illustration, trop, trop bien. Il y a des filles sexy, j'imagine, du coup, dessus.
Elles sont habillées en sari ou genre de choses. C'est du...
ça n'empêche pas d'être sexy.
15e siècle oriental.
D'accord. J'ai connu les illustrations plus sexy.
D'accord, ok.
C'est moins sexy que Dead of Winter, alors que pourtant le thème est quand même pas très sexe.
Oui, je vais pas lancer ce débat-là, vas-y, voilà. Continue, pardon.
Et c'est édité par Plan B. Plan B, c'est son premier jeu. Mais alors, Plan B, en fait, c'est les anciens de Philosophia. Philosophia a été racheté par Asmodée. Sophie Gravel, qui était celle qui avait créé Philosophia, a décidé de faire de l'édition pure. Avant, Philosophia, c'était surtout un localisateur, ils faisaient que de la traduction.
D'accord.
Ils ont racheté aussi Zeman Games, qui a fait Pandémie. Et là, comme ils ont été rachetés par Asmodée, le contrat qu'elle a eu avec Asmodée, c'est que tu as le droit de créer une maison d'édition qui fera que de l'édition pure.
D'accord, et ils sont distribués aujourd'hui par Asmodée quand même.
Alors, en France, Asmodée, et aux États-Unis, même pas. Ils sont distribués par DTG. Ils ont un contrat d'exclusivité avec DTG Distrib.
D'accord, ok, sympathique.
C'est un peu. Ils ont vraiment laissé, a priori, liberté de ton à.
C'est plutôt sympa de la part d'Asmodée, on les connaît pas aussi cool, mais pourquoi pas.
Voilà.
Bah, ils me regardent pas comme ça, Christophe. Ils ont quand même tout le marché sur la distribution en France et en Europe. C'est bizarre de leur part qu'ils lâchent ça, quoi, mais bon.
Alors, je sais pas quel était le contrat qui était passé, mais c'est vrai que laisser la partie distrib,
c'est une bonne chose. Hein. On imagine qu'il y a un bon contrat pour eux derrière, mais voilà, ok, d'accord. Et donc, Plan B, c'est leur premier vrai jeu finalement ?
C'est leur premier jeu.
D'accord.
Ils ont l'air de partir comme un peu à la Space Cowboy. Le prochain jeu, ça serait un Matt Leacock.
Ça va, ils ont
contacté Rob Davio, ils ont contacté des gros auteurs et ils sont partis dans l'idée de faire du jeu accessible ou très spécialiste avec du très beau matériel.
D'accord, une bonne chose suivre de très près.
Ils ont aussi gardé Pretzel Games, qui était le jeu avec les pichenettes en boîte. Comment ça s'appelait le jeu de western avec les en bois.
Ah oui, Flixamol.
Ouais, Flixamol. Ils ont gardé Plan B va récupérer toute cette partie de ce jeu-là.
D'accord.
Donc, les très gros jeux en bois, ils en ont fait un deuxième qui était sur de l'art contemporain dans les déchetteries.
D'accord.
Pareil avec du gros matos en bois. Et ça, ils vont garder ça.
Ok, sympathique, sympathique. Donc revenons sur La Route des Épices.
Alors La Route des Épices, c'est donc le premier opus de Century. C'est censé représenter des échanges commerciaux sur la route des Indes au XVe siècle.
D'accord.
Le matos est très joli, c'est des cartes tarot, format tarot, avec très belles illustrations de Fernanda Suarez, des bols, quatre bols, et des cubes en bois qui représentent les épices. Nous avons le safran, le curcuma, la cannelle, et la quatrième, je ne sais plus, le cumin.
D'accord, bien. Ok.
Je ne suis pas sûr pour le cumin.
Mais, c'est pas grave, en fait, t'en voudras pas.
Rapidement, c'est jaune, rouge, vert, marron.
D'accord, simple et efficace.
C'est un jeu dans la lignée Splendor, mais avec un poil plus de possibilités de calcul.
D'accord, c'est un jeu d'échange dans le sens plus Colon Catan ou plus, plus Splendor en termes de calcul?
Plus Splendor, en fait. D'accord. À son jeu, on a une action à faire parmi quatre qui sont jouer une carte, acheter une carte, reprendre ses cartes en main. Parce qu'à chaque fois qu'on joue une carte, elle va devant soi. Tant qu'on ne les a pas retournées, on ne peut pas les rejouer. Et réaliser une mission.
D'accord.
Alors, les missions, par exemple, on nous demande 3 rouges, 2 bleus, et, trois rouges, 2 verts et un.
D'accord, d'où le côté très splendor pour ça. Quoi.
Et les systèmes de cartes actions, il y a soit elles produisent, soit elles permettent d'échanger du rouge en du vert en du jaune, etc. Soit elles permettent d'améliorer. Les épices sont plusieurs niveaux. On a jaune qui est le premier niveau. Avec une amélioration, on peut la transformer en rouge. Avec une autre amélioration, on peut la transformer en vert, puis en marron.
D'accord.
Donc il y a ces deux types de cartes.
Oui,
juste une petite remarque. Vas-y. En fait, parce que là, depuis tout à l'heure, je me suis rendu compte d'un truc. C'est quand Christophe parlait de Flamme Rouge, moi qui n'aime pas du tout le vélo à la télé, tu vois, j'ai quand même acheté le jeu. On parlait de pingouin, ce qui est quand même pas non plus le truc qui est
le plus
sexy du monde. Là, il nous parle d'épices mystérieuses d'Orient, tu vois. Et en fait, je me disais qu'en fait, le jeu de plateau, quand même, t'es capable de faire jouer tout et n'importe quoi, tu vois. Hein. Et dès que tu commences à dire qu'il faut des cubes verts, des cubes rouges, machin, bah tu tues la magie, je trouve.
Ouais, c'est quand même
mieux que tu dises 3 curcumins et 2 épices. Je pense que c'est beaucoup plus parlant, quoi, tu vois. Ça fait voyager.
T'es dur avec un vélo.
Non, je sais pas pour critiquer, c'est juste, je me rends compte qu'en fait, tu peux faire jouer avec des pingouins.
C'est ton côté rôliste qui parle, c'est pour ça.
Je sais pas.
Autant Flamme Rouge et d'autres jeux, on sent le thème, autant là, le thème, on le retrouve graphiquement. Très rapidement, on va réfléchir en cube vert, jaune et.
Oui, c'est un jeu de calcul pur et dur.
Autant il y a autant Outlive, on croit au thème, autant Dead of Winter, on croit au thème, autant là, le thème est bien, mais c'est comme Splendor, on croit pas du tout. Enfin, le thème n'a pas d'impact sur le jeu.
Oui, clairement.
Moi, je suis rentré dedans.
Dans
sur le thème.
Dans
hein.
le thème, moi j'aime bien, ouais, parce qu'en fait, les illustrations, elles sont tellement belles, et puis les épices sont présentées dans des petits.
Dans de petits bols, ouais.
Des demi-sphères, tu vois.
Ouais.
En fait, c'est super bien fait. Et t'as. Enfin, moi, je le trouve. Non, moi, je me suis vraiment pris à acheter des épices dans un marché, quoi. D'ailleurs, les parties que j'ai faites, j'apprenais les termes plutôt que de dire cube bleu, en fait.
Oui, mais c'est, pas, oui, c'est alors, parce que toi, c'est ton côté corinthien qui parlait,
c'est
en
mon
fait.
Côté donc, corinthien,
tu te mettais dans.
Et puis, il est
rôliste
un peu. Ouais, c'est un peu pour ça, quoi.
Oui, oui, il a un bon côté. Il a un bon côté. On
ouais,
ne va pas
rôliste,
le nier.
Voilà, enfin, moi, c'est pour dire.
La prochaine fois, on mixe l'état parce que là, j'ai deux plateauistes d'un côté et deux rôlistes de l'autre. La prochaine fois, on mixe, les gars.
On voit de quel côté la magie, quoi. Il y a le jeu de rôle, tu vois, il y a le jeu de plateau, quoi.
Sinon, alors petit reproche éditorial, le turmeric n'est pas une épice en France, c'est le curcuma. Le nom, c'est turmeric, c'est anglais.
Ah,
oui,
voilà.
L'éditeur est canadien, donc l'éditeur est canadien aussi.
Ah, d'accord. Donc il y a un problème de traduction canadien-français.
L'auteur est new-yorkais.
Ah, pardon.
Ok, d'accord. C'était le détail, le point détail.
J'ai pas compris. Dans la version française, ils ont utilisé un mot anglais.
Ils ont utilisé un mot que tu cherches. Mais c'est comme dans Pandémie où le vol nolisé au milieu du vol charter, c'est un terme qui te parle pas en France.
Le quoi ?
Le vol nolisé.
C'est le
vol charter.
Le long français pour dire charter, en fait.
Oui, mais justement, comme les éditeurs sont canadiens, automatiquement, c'est eux qui ont traduit en français, mais ils ont peut-être utilisé du français canadien, quoi. Donc,
Oui, non, mais c'est intéressant. Vous voyez, chers auditeurs, comme on peut être pointilleux sur certains jeux, et c'est, je trouve ça assez marrant, finalement. Pardon. Reprends sur la route des épices.
Mais sinon, oui, le jeu, vraiment, il y a une courbe. Acheter les cartes, parce que si on veut acheter une carte qui est un petit peu loin, bah, il faut dépenser des épices en plus.
D'accord.
Il y a vraiment un rythme à trouver, pas avoir trop de cartes, parce que sinon elles ne tournent pas suffisamment vite, et une sorte de deck building, mais à l'envers, parce qu'elles arrivent directement, quand tu achètes une carte, elle arrive directement en main, elle n'est pas dans ta pioche.
D'accord.
Il y a vraiment un petit truc à faire. Ça dure 3 quarts d'heure, une partie. Le matériel est vraiment très beau. Il y a des pièces.
On reste quand même sur un gros jeu de 3 quarts d'heure. Hein. C'est pas...
On a des belles pièces aussi de monnaie pour mettre des points en plus, etc. Le matos est bien. Ça donne envie. Ça donne envie de pouvoir mixer avec les deux autres jeux qui vont arriver l'année prochaine.
D'accord. On a une trace, une idée de ce qu'on va être ces autres jeux ou pas?
Alors, le deuxième, ce sera les Merveilles de l'Est. et la troisième qui sera au 16e siècle, et le troisième ça sera un nouveau monde qui sera au 17e siècle et qui parlera avec les États-Unis.
Évidemment.
Après, pour l'instant, sur les mécanismes, ils ont juste montré les illustrations, ils n'ont pas encore montré les mécanismes. Tout ce que je sais, c'est qu'on pourra mixer un jeu, puis deux, et les trois aussi.
D'accord.
Donc, il y a vraiment une envie de...
Ouais, de faire une espèce de construction. En fait, tu vois, on arrive un peu au rôliste là-dessus. Hein.
T'es sûr de ça? Parce qu'on m'avait dit 1 et 2 et 2 et 3. Pardon, j'ai
interrompu. 1 et 3, et a priori 2 et 3. Ouais, il y aurait 2 ou 3 possibilités de mixer.
Mais bon, ah, d'accord. Ça... Donc, pas les 3 en même temps pour toi, mais juste 2
jeux. Ah, si, les 1, 2, 3, oui, ça c'est prévu, mais c'était d'accord, pas le 1 et le 3 qui est pas sûr. Dit,
Ah, ok, d'accord. Christophe, tu voulais réagir?
Il faut aussi préciser qu'il se joue aussi bien à 2 qu'à 3 ou 4. Parce que justement, du coup, à deux, les parties vont être beaucoup plus tendues, évidemment.
D'accord.
Beaucoup plus stratégiques par rapport à ce que fait l'autre, évidemment, parce que tu vas faire gaffe aux cartes que tu peux prendre, etc. Et à trois et à quatre, il est très très bien.
C'est... Et il se joue même jusqu'à 5.
Jusqu'à 5, oui, exact.
D'accord, d'accord. On est sur quel ordre de prix pour un jeu comme ça?
35€.
D'accord, ce qui reste raisonnable, hein, pour la qualité,
du matériel, oui, c'est tout à fait honorable. C'est Convoi Splendor qui est dans 30€, il y a moins de matériel. Donc
il y a moins de matériel, et surtout on est sur un jeu qui dure un peu moins longtemps. Je crois qu'on l'entend, on est 30 minutes par partie, non?
Ouais. On a à peu près le même format, un petit peu plus long, mais.
D'accord. Ok, la Century, la route des épices. Tu peux rappeler l'auteur et l'illustrateur, s'il te plaît, que je prends mes notes.
L'auteur, c'est Emerson Matsushi.
Ouais.
Et d'accord. Fernanda Suarez, l'illustratrice, et c'est Plan B. L'éditeur, et c'est distribué en France par Asmodée.
Ok, bah écoutez, enfin moi j'ai pas testé, toi t'as kiffé, Ketrus, t'as testé?
Ouais, complètement, ouais.
D'accord.
C'est vraiment un très bon jeu, avec beaucoup de tension, et beaucoup plus intéressant que Splendor, parce que les cartes que tu récupères te permettent de faire pas des combos, mais en tout cas des séquences à long terme.
D'accord.
Et c'est vraiment très profond, et les illustrations, moi j'en suis fan complet, et je l'ai acheté pour ça en fait, parce qu'il était bien aussi, mais surtout pour les illustrations.
Ok, Christophe, j'imagine que t'as aimé, hein, c'est un jeu à points,
il est vraiment bien justement. Alors il a l'air simple au départ, les règles s'expliquent très facilement, mais c'est vrai que après tu t'aperçois qu'il y a qu'une vraie courbe de progression, parce que quand tu joues avec des joueurs qui le connaissent bien, c'est dur d'être au niveau, hein.
D'accord. Je vais poser la question qui va fâcher Christophe. T'as gagné contre Jedi ou pas?
À celui-là, non. Mais d'accord.
Mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où tu gagnes contre lui. Donc ça va être le point. Pour rappeler aux éditeurs, Jedi, c'est un ami, hein, avec qui on joue régulièrement à des gros jeux. Donc Christophe joue régulièrement avec lui, avec des gros jeux où il faut calculer énormément de temps, machin et tout.
Ou Christophe perd.
Oui, perd souvent, pardon, contre Jedi.
Donc souvent, du coup,
je vais intégrer le point Jedi régulièrement pour savoir si Christophe a gagné contre Jedi ou pas. Oui. Parce que du coup, ça sera intéressant de savoir s'il aime ce jeu ou pas.
Je rappelle que c'est notre meilleur joueur, en tout cas.
Clairement,
au niveau gros plateau, et effectivement, voilà.
Comment il se défend, t'as vu, il se défend.
Non. je valide totalement le process,
d'accord,
point Jedi, mais par contre, c'est vrai qu'il faudrait poser la question aux autres, à mon avis, c'est pareil. Hein.
J'imagine. Toi, ça te donne envie qu'il l'a ou pas? Ça t'en parle.
Alors, moi, par rapport à ma réflexion, c'est simple, faut que je teste, je peux pas dire.
Ouais, mais dans l'idée,
si je suis vraiment pris dans, comme je disais, hein, dans l'histoire de la route des épices, etc., que le jeu soit compliqué, etc., c'est pas un problème.
Ouais.
C'est juste que si je suis pas dans le truc et que j'ai juste l'impression de pousser des
cubes. Oui, parce que Splendor, toi, t'avais pas du tout kiffé de mémoire, c'était pas du tout le.
Si, ouais. Splendor, ça passait, quoi. Après, ça manque un petit peu de. Voilà.
Ça manque d'interaction un petit peu.
Voilà, de matière, je sais pas, c'est.
Ok. Non.
Ce que je veux dire, c'est un jeu qui est accessible à partir de 8-10 ans. Je pense que tu as joué avec tes fils.
Non, pas encore. Non.
Pas encore.
Mais c'est accessible vraiment à 10 ans, avec autant de régler de points.
Les règles sont pas très compliquées.
Tu joueras pas de la même façon, en fait, je pense.
D'accord. Mais tu l'aurais pas 52 points.
Ans, même avant 10 ans, je pense qu'ils peuvent.
Tu penses que Christophe pourrait gagner dans ce cas-là?
Non,
mais franchement, moi là-dessus, je sais que c'est pas un jeu où je vais gagner beaucoup de parties.
Justifié direct. Ok, merci beaucoup Amélo. Donc Century, la route des épices qu'on vous conseille, hein, c'est plutôt très positif autour de la table. Moi j'ai pas encore testé, mais ça me donne très envie. Et je vais donner la parole directement à Satan pour sa chronique. On va changer un petit peu les choses. J'ai envie de bousculer les choses dans cette émission. Je sais pas
quel anarchiste.
Ouais, je sais. Ça m'est venu comme ça. C'est l'été. Il fait chaud. Il fait beau. Il fait chaud.
T'es un rebelle. Et ça vient directement dans ma chronique.
Voilà. Bim. Vas-y, je t'en prie, prends la parole. Okay.
Donc pour vous ce soir, j'ai testé le jeu 1%. Donc 1%, d'accord.
D'accord.
Qui est un jeu de biker où en fait vous jouez des backers dans un MC, donc Motorcycle Club. En fait, voilà, on fait un gang de backers comme dans la célèbre série Son of Anarchy. Et donc, bah, le jeu de rôle où vous êtes un gang, et bah, vous devez faire vivre votre gang, le développer, etc. Machin. Et c'est un bon jeu de rôle. Voilà. Donc, il est sorti il y a peu, il était en crowdfunding. Voilà, il est sorti il y a quoi, un mois, je crois, quelque chose comme ça.
D'accord.
Le matériel, il est assez joli. Je suis pas super fan des illustrations parce que tu as des pleines pages sur des gens qui ont contribué. Et bon, il y en a un que je connais, et puis bon, tu vois sa tronche avec habillé en backer, bon, ça fait un peu bizarre, etc.
Mais tu sens que c'est faux, quoi.
Non, mais ouais, je suis pas super. Non, ils sont bien faits, hein. C'est pas. Après, c'est une question de goût, donc je vais pas trop juger. Voilà. Après, le jeu, il est. Enfin, le bouquin est. Ouais, il tient bien la route, il est bien documenté, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Le principal intérêt de ce jeu, donc à part de jouer des bad boys, okay, c'est que. Il n'y a pas de fiche de perso.
Ah.
Pas pour toi, pour ta bécane seulement.
Ah. Oh, voilà. Là c'est la classe.
C'est super classe. Donc en fait un perso, alors déjà bon, on peut jouer en one shot, il y a déjà des clubs qui sont prêts, qui sont expliqués dans le bouquin, etc. Mais la phase la vachement plus intéressante du jeu, c'est qu'on peut créer entièrement son MC, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à la base et on va choisir alors combien on est. Donc à la base ça va être les joueurs autour de la table. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont nos relations avec les autres clubs, etc. Alors attention, il y a eu des histoires, hein, qui sont sorties, bien sûr, parce que bah, quand on regarde Son of Anarchy et les vrais MC, bon, c'est quand même des personnes un petit peu rachots et...
Ouais, et bon, voilà. on va pas...
Et qu'on est problème avec la gente féminine, mais bon, bref. Là, dans le jeu, donc par exemple, tu peux faire un gang de nanas, en fait.
Oui, ce que j'étais en train de me dire.
Voilà, tu peux le faire. Après, on t'explique quand même que bah, tu auras des problèmes. Quoi, tu vas rencontrer d'autres clubs qui seront beaucoup plus machos, etc. Mais c'est pas, tu peux le faire. Tu peux faire un club, alors on te demande est-ce que tu intègres les noirs, les hispaniques, etc. Enfin, comme on sait dans Son of Anarchy, par exemple, il y a un métissé hispanique, c'est pas grave. Et puis quand il apprend qu'il y a du sang noir, oh mon dieu, je dois quitter le club.
Enfin, ouais,
ça, voilà. Tu peux le créer comme tu veux. Mais rappelle bien quand même que les autres clubs, ça va pas toujours bien se passer. Quoi.
D'accord, voilà. Ok. L'idée est cool.
Voilà. Alors après, c'est pareil, tu vas jouer à un méchant. Enfin, un méchant.
Oui, forcément, soit un dealer,
voilà,
soit...
Est-ce que tu trafiques des flingues? Est-ce que tu trafiques les filles? Est-ce que tu fais du racket? Est-ce que, voilà, il n'y a pas trop de possibilités de jouer les justiciers de la rue, mais je pense que, bon, personne n'a vraiment envie de le faire. Enfin, nous, on avait fait un MC où, en fait, on racketait des gens, mais en même temps, on assurait la sécurité, tu vois.
Ouais, on essaie de donner bonne conscience.
Voilà, mais bon, c'est tout. Voilà, en gros, c'est voilà, tout le MC est construit comme ça. Tu choisis la ville, comment tu veux te répandre. S'il y a un autre club qui existe, et ça va te donner des points de création, tu vois, des relations, etc. Bah, si tu veux connaître un district à Tornay qui regarde à gauche, bah, peut-être que tu as une autre bande. Oui.
Ça se passe aux États-Unis?
Bah, logiquement, oui. Après, tu peux faire une bande avec Johnny Hallyday dans ton club, mais je pense pas que ça ait autant de succès, quoi. Mais
il y a des clubs en France qui sont moins répandus, mais.
Oui, bien sûr. Mais après, voilà, c'est typiquement Son of Anarchy, donc tu vois, t'es vraiment dedans, quoi. Voilà. Et après, tu vas choisir le tatou du club. Parce que tu choisis son nom, mais t'as un tatouage que tous les membres veulent savoir. Alors, pareil, tu choisis aussi. Alors, si le mec il trahit sa parole, comment tu lui enlèves son tatouage? Est-ce que c'est juste tu le bannis?
C'est important, ça.
Oui. Est-ce que tu l'enlèves au fer rouge? Est-ce que tu lui arraches la peau? Est-ce que le mec doit disparaître et tu l'enterres dans un. Tu vois, c'est pas toujours très, très
tu
moral.
Tu crées
hein.
Vraiment toutes les règles du club avec une
idéologie. Ouais, c'est très simple. C'est en quoi, on va dire, une dizaine de questions, tu vois, qui place vraiment les choses. Et puis, ça se crée vraiment sous tes yeux, tu vois. Parce qu'en plus, bon, t'es 3 ou 4, chacun donne ses idées, etc. Vraiment le club qui se crée, quoi. Donc t'imagines ta petite ville, t'imagines les gars, en plus t'imagines ton personnage dedans, en fait, parce qu'il faut un président, un vice-président,
ouais, un machin.
Voilà, qui ont des noms spécifiques, hein, chez les backers, mais tu les connais,
capitaine, je suppose, de la route,
capitaine de la route, voilà. Et donc t'as tout ton club qui commence à se créer, la petite ville autour, hein, parce que quand tu bah nous, je sais plus, on était partis sur un MC, c'était quoi? Bon, on était antisémites et en fait, il y avait des hôtels de luxe où il y avait des vieilles familles juives qui venaient en station balnéaire. On les racketait, quoi, tu vois. Donc, t'as tout un côté qui commence à se créer comme ça. Voilà. Donc, t'as ton club qui est créé. Et après, tu fais ton personnage. Donc, t'as le logo du club qui a une valeur. Hein. Je veux dire, si tu fais une tête de mort avec 2 flingues croisées, c'est que bon, bah,
ouais,
t'es pas un gentil garçon, quoi. Et après, tu crées ton perso. Pour avoir ton perso, tu as 3 petits cartons rectangulaires. Enfin, voilà. Où tu vas dessiner tes tatous.
C'est juste ça, ton ça, perso. En fait.
Voilà.
Ça défonce. Voilà. L'idée, elle tue.
Donc, en fait, tes tatous, tu vas choisir des valeurs parce que plus ils sont puissants, en fait, moins tu vas avoir de. Enfin, moins tu auras de représentation dessus. Par exemple, quand tu prends un simple tatou, il peut avoir 3 dessins, enfin, 3 choses symbolisées dessus. Je sais pas, un aigle, un crâne et un flingue. Et donc, quand tu fais un G, tu utilises ton tatou. C'est-à-dire que le but, c'est que le dessin du tatou représente une généralité, quelque part, ce qui est là-dessus, et qu'à chaque fois que la situation peut être utilisée, le bonus, etc., tu dis, bah voilà, moi j'ai un tatouage deck, donc si tu veux, tout ce qui est liberté, etc., je suis à fond dedans, quoi.
Ouais,
donc
d'accord.
Pour défaire mes menottes en forçant dessus, tu vois, je vais avoir un bonus, quoi, voilà. Je sais pas, t'as un crâne, c'est que bah, pour achever tes ennemis, tu vois, t'auras pas peur, tu vas y aller à fond, enfin voilà.
D'accord.
Et donc,
okay.
Tu peux avoir 3 ou 4 tatouages comme ça. Donc ceux qui sont plus balèzes, il y aura que 2 dessins dessus.
Ouais.
Parce que t'auras, bah, ils sont plus balèzes.
Ouais, ils prennent plus
bonus.
De place, plus de valeur. Ouais.
Ouais.
Ils ont déjà les significations dans le livre de règles ou c'est,
ils donnent des exemples, mais c'est toi qui vas dessiner le.
Ah ouais, ouais, c'est qui va lui, lui donner son pouvoir, entre guillemets.
Pardon ?
Et qui va lui donner son pouvoir, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Non,
non, parce que c'est. En fait, le but, c'est vu que t'as pas de compétences ni de carac, c'est vraiment, faut que tu sois très large. Enfin, l'esprit, c'est pas que tu fasses le tatou ultime qui peut servir dans toute situation,
oui,
c'est
oui.
Vraiment pour caractériser
c'est
ton
pour caractériser.
Personnage.
Et c'est, mais c'est le maître de jeu qui décide ce que ça représente, enfin, ce que ça peut donner comme
non,
bonus.
Non, c'est au moment où tu fais une action, c'est à toi de voir par rapport à ton tatou, bah tiens, j'utilise celui-là, regarde celui-là quand même, tu vois. Je veux dire, attends, j'ai dessiné un truc dessus, tu vois, ça veut bien dire quand même que mon perso, oui. Voilà.
Ouais, d'accord.
Il faut que ce soit large. Nous, bah, tu fais un cavalier, par exemple, ça peut être, bah, alors tu conduis ta bécane ou parce que t'aimes les chevaux, enfin. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Quoi.
Du coup, ça donne lieu à des explications vaseuses ou fallacieuses parfois.
Bah, bien sûr,
ouais.
C'est bien pour ça que c'est rigolo. Mais non, en général, tu verras. Enfin, je pense que les tatous, ça vient assez vite. Hein. Alors bon, ceux qui savent pas dessiner sont un peu dans la merde. Dès que t'en as un autour de la table qui s'est dessiné, par contre,
ils se retrouvent. Ils se retrouvent avec tous les dessins à faire.
C'est clair.
Non, mais attends, je ferai en fait le crâne là. Il doit passer avec le couteau là.
Non, mais c'est vraiment fun, quoi. Je veux dire, quand t'as en plus, tu dois avoir, je te dis, 3 symboles dessus, quoi, pour les petits tatous, quoi. Donc c'est voilà, t'as un cavalier avec un nazi dessus, avec un grand sabre, tu vois. Imagine.
Ouais, d'accord.
Et après, tu choisis où il est placé, parce que tu peux pas avoir non plus autant de tatouages que tu veux. Voilà, par exemple, si tu as ton cavalier nazi dans le dos, bah, tu n'as plus de place dans le dos, donc il faudra que tu mettes le deuxième tatou, je sais pas, sur ton bide, hein, sur le bras, machin, et à un moment, tu ne peux plus les mettre, donc tu es obligé d'en virer un.
Et l'emplacement sur le corps est important par rapport au reste, ou c'est juste pour dire que.
C'est juste pour dire que c'est limité. Après, d'accord. Ils ont une autre importance, c'est que c'est aussi tes points de vie. C'est-à-dire que quand tu prends des dégâts, en fait, tu as un tatou qui est utilisé. C'est-à-dire que bah je sais pas c'est comme si on t'avait tiré une balle dans le bras par exemple tu peux plus te servir ton bras là par exemple t'as un tatou qui va plus tu prends un coup
d'accord.
Ton tatou est plus utilisé quoi
donc en fait t'as 3 points de vie
ouais,
maximum
ouais alors le système de jeu est un peu étrange enfin différent on va dire moi je l'ai testé sur mon perso a fait un corps à corps avec un autre gars d'un gang pour rigoler je me suis fait allonger en un pain.
Ok.
Ouais, donc c'est un peu, tu vois, voilà.
Mais c'est quoi, c'est en jouant des 10, des 6 ?
En fait, tu as une échelle, l'écran, quand vous achetez l'écran, en fait, le côté du MJ, c'est une échelle.
D'accord.
D'accord, qui est, je sais plus combien elle est évaluée, mais bon bref, t'as une longue échelle, et donc quand tu vas commencer une action de combat ou quoi que ce soit, tu jettes 3D de 6, pardon, pour savoir à quel niveau tu commences.
D'accord.
Voilà. Et à chaque fois que tu vas faire une action, t'as un certain nombre de cases dont t'es décalé, en fait.
D'accord.
Et quand tu prends un coup, tu recules d'un certain nombre de cases.
D'accord.
Donc dès que tu vas te prendre un pain ou une balle, en fait, si tu t'es pas défendu ou que t'as pas le tatouage qu'il faut, etc., tu vas vachement descendre. Donc c'est-à-dire, tu prends une balle, bah tu peux plus jouer parce que t'es encore après l'autre, tu vois.
D'accord. Voilà, voilà. En fait, c'est vrai, c'est une échelle d'initiative finalement.
C'est une échelle d'initiative, valeur, point de vie, tout et tout représenté sur la même chose en fait. Donc c'est très simple. Hein.
Ouais, j'imagine qu'en beaucoup t'as compris, mais.
Et du coup, alors ça a créé vraiment une ambiance sympa parce que c'est vrai que t'as pas de caractère, t'as pas de feuilles, t'as juste tes tatous, donc t'as vraiment ton image dans la tête. Et bah il y a pas de règle genre non je fais telle action tu vois est-ce que t'as un bonus malus machin non il y a que tes tatouages qui te donnent des bonus et des malus
d'accord
et vraiment c'est assez simple enfin simple sans être simpliste ça passe très bien dans l'esprit tu vois
ouais, parce
que t'es vraiment dedans en plus t'es jamais tout seul voilà.
Oui en fait ça force le RP en permanence ça force à la discussion et juste le
côté... Ah non tu peux y aller tu peux y aller comme un gros
non mais la discussion
la...
en jeu,
la description voilà c'est un petit peu c'est simpliste, voilà.
D'accord,
pas simple,
okay.
Pardon, pas simpliste, mais simple. Moi,
mais est-ce que finalement, enfin, on a vu régulièrement ce genre de système de jeu un peu simple, mais pas simpliste, qui limite certaines actions ou qui vont finalement être un peu gênants pour une action peut-être un peu plus complexe ou sur du long terme. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois ce que je veux dire.
Alors, j'ai peut-être pas assez testé le jeu pour te répondre, mais je t'avouerai que ça, c'est le petit défaut du jeu, c'est que je me vois mal sur le long terme à faire beaucoup de choses avec ça.
Ouais,
c'est le problème justement comme tu dis des jeux où il n'y a pas beaucoup de règles, pas d'évolution énorme etc. Là, bon là il y a un système d'évolution mais vu que c'est simple tu vas pas avoir ce côté où tu vas avoir ton perso évoluer, changer avec je vais gagner une nouvelle technique de corps à corps
ouais,
etc.
Voilà,
t'as pas ça en fait. Donc ça c'est vrai que sur le long terme t'as pas ce côté, ton personnage est pas le principal membre du
oui c'est pas, en fait c'est pas le centre de l'histoire effectivement, c'est le
c'est
club
ça,
qui
voilà.
Reste le centre
bah Bon, là, tu joues ton perso, mais oui, effectivement, c'est le principe. Enfin, c'est une discussion qu'on pourra avoir, mais c'est vrai que t'as les jeux où ton personnage est le centre de l'histoire. Dans ce cas-là, tu sens bien son évolution, et quelque part, l'histoire, c'est qu'une excuse pour qu'il avance. Et puis, il y a des jeux où, en fait, ton personnage, il est presque secondaire, et il peut être éliminé, l'histoire continuera quand même.
Bien sûr.
Voilà.
C'est plus une gestion du groupe, du MC, comme était Ars Magica avec l'histoire de Covenant.
Ouais, enfin, c'est un peu plus complexe parce que là, t'es vraiment. Enfin, le MC, c'est toi aussi, quoi. Tu vois. Enfin, je veux dire, il y en a un qui va jouer le président, forcément. Donc, le MC, c'est toi. C'est tes décisions qui ont une influence. Nous, on était un club de 4, tu vois. Tu commences un club, t'as 4 joueurs, t'as un club de 4. Donc, c'est à toi de voir comment tu vas monter ton business, tu vas t'allier avec d'autres clubs, etc.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais il y a un autre personnage aussi qui est super important dedans. C'est donc la bécane qui a sa feuille de personnage. Et donc, tu as toute une partie détaillée qui t'explique comment faire ta bécane, comment faire ton chopper, qu'est-ce qu'un shuffle head, ou tu vois, les différentes choses qui... voilà. Parce que c'est super important dans les MC, hein, on est tous d'accord, c'est des backers. Voilà. Par contre, c'est un truc que je vais reprocher à la série, c'est que les boutons, on en a strictement rien à foutre. Et là, j'avoue, dans le jeu, en fait, bah... Ok, c'est bien de savoir que t'as une bécane qui a un bonus de plus 2 en maniabilité et plus 2 en vitesse, mais en fait, on s'en fout.
Ah, ça change rien du tout dans le jeu,
finalement. Bah, si, t'as plus 2 sur tes GD quand tu fais une course-poursuite avec ta bécane, mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt du jeu? Je suis pas sûr.
Ah, ça casse un petit peu la mécanique simpliste qu'il y avait avant, en fait.
Voilà, ouais. Moi je préférais carrément avoir un dessin de ma bécane où tu vas faire le logo, le dessin, enfin tu vois, ton chopper comme t'as envie, mais les détails techniques de rôliste, justement, quelque part, ce côté plus 2, plus 1, machin, je m'en fous, quoi.
Oui,
je
préférais
qu'il y ait un petit côté plus développé, mais bon. Mais
est-ce que finalement ça met pas en avant le fait que la bécane reste l'élément important du jeu, et c'est justement là où on va s'attarder le plus en termes de détails techniques et
voilà. Mécaniques? Bah, moi c'est le souci que j'ai avec la série, par exemple, hein, c'est que bah ok, on leur dit un club de motards, ils ont tous une bécane, les personnages ont tous leur bécane, ils y sont censés tenir plus que leur vie, mais tant que personne raye la peinture ou crève le pneu,
on s'en fout
en fait, ouais. C'est juste un moyen de locomotion, quoi. Ça, tu vois, il y a pas ce côté enfin, il manque quelque chose à ce niveau-là, personnellement, hein, c'est comme ça que j'ai trouvé, quoi.
Mais est-ce que finalement il y a pas, ouais, tu peux pas faire un espèce de road trip parce que finalement tu es obligé de rester sur place parce que tu as ton club qui fait son business, hein, un côté un peu bizarre, quoi.
Tu peux faire un club de nomades, hein, qui se balade, etc. Après, d'accord, pour monter du business c'est plus chaud, mais bon, ouais, les premiers Los Angeles, ils ont commencé comme ça pour dealer de la drogue à droite à gauche, hein.
Ouais, évidemment. D'accord, on est sur quel, enfin le je sais plus ce que je voulais dire, excuse-moi, mais du coup, en termes de tarifs sur le jeu, ça existe, c'était un crowdfunding à la base?
Ouais, mais je crois qu'il est à 35 euros.
D'accord.
Il me semble bien. L'écran m'a paru cher. J'ai trouvé à 25 euros, alors que t'as pas de table, tout ça, t'as juste l'échelle. Enfin, il est beau, hein, mais voilà.
Il y a d'accord. Pas un petit livret de règles ou un petit livret de scénario avec?
Je crois pas. Je l'ai vu en boutique, j'ai pas vu de livret de règles. Hein. J'ai pas...
Ok, ouais. Voilà.
Après, je peux me tromper, hein. Là, je suis pas sûr. J'ai acheté mes propres cartes de tatou qui sont vendues séparément, donc voilà.
Forcément.
C'est important, ouais. Hein, c'est pas n'importe quoi. Mais franchement, ça, c'est bien. Ouais, t'as vraiment un côté personnalité, enfin, vraiment fun, quoi. Voilà, sinon, il est sorti chez Gamefu, pardon.
Ouais.
Et les auteurs s'appellent Steve Goffo et Laurent Rambourg.
D'accord, ok. Voilà. Eh ben, ça donne plutôt bien envie, hein.
Je te propose d'essayer, Zef, à mon avis, ça va vraiment me plaire.
Ah ben, je crois bien, ouais. Ketrus, t'as pas testé encore?
Non, j'ai pas testé, mais moi j'ai été président d'un club de moto aussi.
C'est vrai?
Ouais, dans GTA V, mais c'est exactement pareil.
Tu fais ton club, j'ai cru
tu
donnes
le nom, tu choisis ton emblème, et puis t'as ton petit garage de moto, puis après tu fructifies les business que tu veux, cocaïne, méthadone, cannabis, tu vois, enfin, genre de truc de club de moto, quoi.
D'accord, de truc classique. D'accord, RMLO, t'as testé?
Non, j'avais regardé un petit peu la campagne, il y avait des trucs qui me paraissaient rigolos. Je suis pas sûr que j'accroche à fond à l'univers.
D'accord, ouais, ok. Christophe, je te demande pas.
Hein. Bah non.
Bah non, je te demande
t'aimes
pas.
T'aimes les motos? T'aimes pas les tatous? T'aimes pas les blonds habillés en viking avec des casques à pointe et qui n'aiment pas les noirs et les juifs et les femmes? Oh,
putain.
Ah. Quoi? Oh, pardon, excusez-moi, j'ai.
Il fallait mettre les pieds dans le plat.
Bah non, mais franchement, enfin, faut reconnaître que joues des méchants, quoi. Voilà, c'est l'univers. C'est un jeu. Donc, on rappelle que dans un jeu, on peut se permettre de faire des choses qu'on fait pas, genre jouer avec des pingouins.
Bien sûr.
Voilà, et là, jouer des méchants, en fait.
Ok, bah écoute, on va s'organiser ça. Je pense qu'une petite campagne du MCZF va venir. Non, ça va, c'est bon, ça n'a pas un bon nom, on le sait. Ok, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Christophe qui va nous parler de Terraforming Mars. Il va nous parler d'un gros jeu qui est très très bon. Je spoil tout de suite. Vas-y, enchaîne.
Ouais, bah écoutez, alors déjà, on va rappeler que de tout temps, l'homme a toujours rêvé de Mars. Hein. Il en parle depuis qu'on a découvert la planète. Autrefois, avant, on rêvait de petits bonhommes verts hein, ou avec des tentacules ou même voire des vampires. Et puis, une fois qu'on a découvert qu'il n'y avait personne là-bas, eh ben, depuis qu'ils ont découvert ça, l'homme rêve d'y habiter. Et bah justement, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune autre planète hein, qui a autant généré de fantasmes là-dessus, autre que la Terre. Hein. Mars, c'est vraiment la planète qui fait rêver, que je crois qu'on revoit plus dans la littérature, les films, etc.
C'est aussi la seule qui est accessible à une échelle humaine.
Discussion métaphysique encore, voilà. Attention, vas-y,
non,
Satan.
Vénus aussi, mais il y a eu la Lune en fait. Il y a eu la Lune et Mars.
C'est pas une planète.
Oui, c'est j'ai oublié de préciser. C'est pas une planète, mais voilà, c'est les deux seuls qui sont vraiment dans la littérature.
Tout à fait.
Ok, enchaîne.
Et du coup, voilà, là on va parler de Terraforming Mars, qui est effectivement un gros jeu. Déjà dans le thème, on est un peu dans, si vous vous rappelez, de Total Recall avec Schwarzenegger. Oh, voilà, oui. On est au 24e siècle, la Terre est surpeuplée, les ressources naturelles sont plus bas. Et justement, on pourrait croire que c'est un jeu coopératif parce qu'il va falloir rendre la planète habitable, Mars habitable pour les humains. Donc on va terraformer Mars. Sauf que les joueurs représentent des corporations hein, qui vont travailler et qui n'ont pas du tout joué en coopération puisque leur objectif, c'est individuellement de gagner le plus d'influence, mais en faisant les plus beaux coups d'éclat de terraforming.
D'accord, rappelle juste le terme de terraforming.
Donc terraforming, c'est justement c'est transformer la planète à la fois au niveau de sa géographie,
géologie,
etc. De l'oxygène, de l'eau, etc. C'est grosso modo de la rendre habitable.
Voilà.
Okay. La plus proche de la Terre.
Possible. Ok, donc on est des grosses corporations, Welland voilà, Butani, tu m'entends ?
Tout à fait, et on est des grosses corporations, et on est dans un jeu vraiment expert, puisqu'on a un grand plateau avec une face de Mars découpée en hexagone, il y a beaucoup de petits cubes, il y a un énorme paquet de cartes, et puis il y a une tripotée de tuiles en hexagone. Donc voilà, quand on voit le matériel, ça fait un peu peur, mais en fait, excepté le temps des règles, qui est un peu long parce qu'il y a beaucoup de paramètres à expliquer, les règles, elles sont relativement simples. Au départ, déjà, Mars, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau, et c'est une zone désertique.
Et la température est au plus bas.
Et la température est au plus bas, puisqu'elle est à moins 30 degrés. L'objectif collectif, c'est d'arriver à ce qu'il y ait 14% d'oxygène dans l'air, 9 zones aquatiques, et que la température soit montée à 8 degrés. Je précise juste que tous ces critères-là sont des critères officiels, c'est-à-dire qu'un scientifique, pour grosso modo, rendre la planète habitable. Comme on va terraformer Mars, en produisant des ressources, en plantant des forêts qui vont faire monter l'oxygène, en produisant de l'énergie, parce que ça, du coup l'énergie on va la transformer en chaleur et la chaleur va faire monter la température, et on va implanter des lacs et des cités, parce que l'objectif c'est aussi d'y envoyer des petits bonshommes.
Et des pingouins.
Plus tard.
Donc c'est un jeu effectivement avant tout de cartes, hein, des cartes qu'on appelle des projets. Donc il y a plusieurs types de projets. Il y a trois types de projets en gros. Hein. Donc il y a des projets qui ont des pouvoirs permanents ou pouvant être activés à chaque tour. C'est à chaque génération parce qu'on parle de génération qui est une sorte de fonctionnement par manche. Donc ces cartes-là, elles vont nous permettre de gagner du pognon parce que le pognon, c'est important.
C'est le plus important dans le jeu.
Voilà. On va cultiver des microbes parfois. On va transformer nos microbes en oxygène. On va créer des petits matériels qu'on va pouvoir utiliser régulièrement. Il y a aussi des cartes qu'ils appellent des cartes automatisées qui, elles, sont du one-shot. Mais vont faire, en grosso modo, vous allez faire une petite éolienne qui va vous monter vos compteurs de production d'électricité, par exemple. Vous avez les cartes événements qui sont les plus courues, hein, les cartes événements. Là, c'est du one-shot aussi. C'est souvent des trucs qui tombent sur la planète, qui viennent de l'espace, hein, des météorites, des météorites de glace. Donc les météorites de glace, quand elles tombent, ça va faire de l'eau. Par exemple, puis vous avez deux météorites qui, elles, vont plutôt faire monter la température et qui, elles, sont très, 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 très sympas parce que chaque fois qu'elles vont faire monter généralement un critère, hein, elles vont monter l'oxygène ou l'eau ou la température. Et chaque fois que vous faites monter un de ces trois critères-là, vous gagnez en influence. Donc ça, ces cartes-là sont très recherchées, mais elles sont aussi chères, puisqu'effectivement, on va devoir les payer. Alors, il faut dire qu'il y a un gros renouvellement dans les parties, puisqu'il y a quand même 208 cartes. Donc, il y a du jeu. Il y a clairement du jeu.
208 cartes, on n'utilise pas toutes dans une partie.
Alors, à 2 ou 3, non. À 4, ça peut être plus... Parce que, comme il y a une question de draft, à 4, on pourra réutiliser celles qui ont été défaussées. Par contre, une carte qui est jouée, elle est définitivement éliminée. Donc, je disais que, justement, on joue en génération. Une génération, c'est une manche. Qui se découpe en trois phases. Donc, la phase de recherche, hein, donc on va acquérir des cartes. Justement, les cartes, on va en acquérir quatre au départ, et puis on va faire un draft. Et on va garder les cartes qui nous intéressent et aussi éviter que les cartes qui intéressent les autres, ils les aient. Parce que de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de garder quatre cartes qui vous intéressent, puisque vous n'allez pas pouvoir les construire toutes ni les conserver. Puisque pour pouvoir les conserver dans votre main, il va falloir les payer. Et ça coûte cher, c'est 3 millions de crédits, on va dire. Et le problème, c'est qu'au départ, grosso modo, vous allez en produire 20, 25 en début de partie, à chaque tour, à chaque génération. Donc dépenser 9 ou 12 millions alors que vous en récupérez que 20 en début de manche, franchement ça n'a aucun intérêt. Donc là c'est là où vous allez essayer aussi d'essayer de piquer des cartes aux autres, enfin d'empêcher de les avoir. Après vous avez phase d'action où là justement vous allez ensuite construire vos cartes et là vous devez encore les payer parce que là il fallait les payer pour les conserver et là il faut les payer pour les poser et les activer. Et vous avez des petites cartes qui coûtent pas cher, hein, 7, 8, 9, et puis vous avez 25, 40, 45.
Donc là, quand on les pose, par contre, ça fait du dégât.
Par contre, quand on les pose, c'est très très bon. Et puis enfin, après, il y a la phase de production où là, on va reproduire de l'argent, on va produire des ressources du métal, du titane, des arbres, parce que de l'énergie, de la chaleur. Et dans les phases d'action, justement, vous allez avoir deux actions possibles, soit jouer des cartes, soit aussi transformer. Si vous avez des arbres, vous pouvez transformer en forêt, donc augmenter la température, l'oxygène de la planète. Si vous avez 8 chaleurs, vous pouvez faire monter la température de la planète. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours bon. Et ça fait monter votre influence. Et votre influence va être à la fois les points de victoire pour la fin de la partie, mais aussi les revenus qui vont vous être apportés en fin de génération. Donc c'est très important d'arriver à régulièrement faire monter votre scoring pour pouvoir avoir de l'argent, parce que l'argent, on court après l'argent, c'est une horreur.
Clairement, dans le jeu.
Il n'y a pas que dans le jeu. Hein.
Non, mais c'est une vérité.
Cela dit, si dans le vrai monde, faire pousser des arbres, ça te rapportait de l'argent, je serais très content.
Ouais, quand ton arbre, tu l'as payé 8 millions, enfin 4 millions pour l'avoir dans ta main, et en plus 8 millions pour le planter, ouais. Je t'assure qu'il a intérêt à te rapporter de l'argent.
Il a pas intérêt à crever, salaud.
Non, mais c'est clair. Mais en fait, je rebondis sur le point important où tu parles d'argent, effectivement, de payer ses cartes. C'est vraiment un des nerfs du jeu. C'est de l'argent, on en manque en permanence. C'est le premier truc que tu calcules dès que tu commences le jeu. Quoi.
Parce que c'est un jeu où on a beaucoup, on a toujours envie de faire plein de choses, parce que du coup quand vous faites le draft au départ, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de tout conserver. Malheureusement, vous pouvez pas. En plus, il faut savoir qu'il y a des prérequis pour certaines cartes.
Oui.
Par exemple, voilà, tu peux pas commencer à faire pousser des buissons
s'il y a pas la bonne température,
si c'est moins 30.
Oui, bien sûr.
Donc ces cartes-là sont actives qu'à un certain temps. Donc payer 3 pour la conserver en main, alors que les 3 tu vas en avoir besoin plus tard, t'es obligé de les défausser. Franchement, ça te tue, mais tu te dis tant pis, je peux pas la garder. Et ça, c'est important de regarder les prérequis. Et puis il y a tout un jeu de combos qu'il faut faire, qu'on va essayer de construire. C'est un jeu effectivement d'opportunisme, hein, parce que voilà, on va essayer de profiter des bons moments. Et puis aussi, quand vous construisez vos cités, quand vous construisez vos forêts, vous allez essayer de les mettre aux bons endroits sur la carte, parce que ça peut vous rapporter des points en fin de partie.
Puis c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou dans le jeu, en fait. La moindre action, en fait, doit rapporter des points. C'est un vrai jeu de calcul. Ariamlo, tu voulais rebondir sur quelque chose?
Absolument pas.
Ah, pardon.
Non, c'est vrai que tu n'as pas parlé de la localisation sur la planète.
Oui,
c'est une importance.
Alors, justement, la localisation sur la planète, c'est que les zones où vous allez planter des forêts ou des cités peuvent vous rapporter, je dis bien peuvent, parce que pas toutes, certaines sont complètement vierges, et donc vous vous rapportez des ressources ou des cartes en plus, ou vous rapportez des petits avantages. En plus, certaines, les eaux, par exemple, ne peuvent pas être mises n'importe où. peuvent mettre que sur certains emplacements, et que ces emplacements sont importants, puisque quand vous allez ensuite poser des unités, des forêts ou des cités à côté de ces zones d'eau, vous allez gagner de l'argent en plus, vous allez vous faire un petit bénef. Donc du coup, c'est important, effectivement, les placements, de savoir où on se met. Et puis, vous pouvez aussi vous coincer ou vous faire coincer par les autres, parce qu'il y a une règle vacharde, c'est que quand tu construis une forêt, tu es obligé de la mettre, si tu as déjà construit quelque chose avant, tu es obligé de construire tes forêts à côté. Tant que tu as une case disponible à côté de l'endroit où tu as commencé, tu dois continuer. Et là, ça peut poser problème parce que tu peux te retrouver totalement coincé par les autres et être envoyé dans le désert où ça rapporte rien. parce que eux, ils sont bien entourés et les seuls emplacements qu'ils t'ont laissés, c'est ceux qui n'intéressent personne.
On y arrive. Christophe, tu aimes ce jeu parce que c'est un jeu de...
Non, c'est pas un jeu d'enfoiré. C'est pas un jeu d'enfoiré. C'est pas qu'un jeu d'enfoiré. C'est un jeu très immersif. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du rêve. Eh ben là, franchement... Tu es en train de terraformer
ouais,
Mars.
Tu t'y crois, hein, clairement. Tu y crois vraiment,
moi, j'ai juste pas eu l'occasion d'y jouer, mais je suis à fond dedans. Hein, j'aimerais clairement. Bien le tester.
Ketrus, t'as testé, toi ? Enfin, je sais, on a joué ensemble, donc je sais que tu as testé, c'est pas une question.
Oui, j'ai testé, ouais.
Est-ce que tu as aimé ?
Ouais, beaucoup, ouais. C'est vraiment c'est un super jeu, et effectivement, il est très immersif. Chaque carte a un flavor text, donc un texte d'ambiance, qui est souvent humoristique, mais pas toujours. Des fois, c'est une vraie info, je crois.
Tout à fait.
Par rapport à la carte, alors tu m'as dit combien ? 208 cartes. Et il n'y en a pas une seule pareille ? Si, il y en a quelques-unes en double.
Je crois qu'il n'y en a pas en double.
Mais non, il n'y en a pas.
Il y en a qui ont des pouvoirs un peu équivalents, mais je crois qu'elles sont
donc pas. Donc ça, déjà, c'est une performance incroyable. Assez ouf. Super jeu, avec des possibilités infinies de victoire ou de stratégie, c'est assez génial. Le seul bémol... Et vous savez ce que je vais dire, c'est que le graphisme du jeu est...
pas tout.
Non, le graphisme, alors les illustrations, elles sont marrantes, c'est des illustrations libres qu'ils ont prises sur Internet et qu'ils ont utilisées pour les cartes. Ça, franchement, c'est drôle. Il y en a des très bien et très marrantes. Mais le graphisme, c'est nul à chier.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Il y a il y avait presque une dizaine de polices de caractère différentes.
Rien que sur le plateau de jeu, je crois qu'il y en a 5.
Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Ça, t'as l'impression de revenir, quand ton prof ramenait un clipart, tu vois, sur une feuille à cartes, il disait merde, qu'est-ce qu'il a fait. Mais ça n'empêche pas d'être complètement immergé dans le jeu, de pas voir passer combien de temps on a joué, 3 heures.
Alors nous, on a joué. Normalement, une partie, ça dure 2 heures. Si tu joues. Parce que les tours sont très très rapides. Hein, parce que ça, j'ai oublié de dire, c'est qu'une génération, tant que quelqu'un n'a pas passé, on continue. Oui. C'est-à-dire que tu peux jouer autant de tours que tu veux, tant que dans une génération. Il n'y a pas de blocage et c'est super rapide. Par contre, déjà, il y a une demi-heure d'explication de règles. Hein. Quand tu connais les règles, tu passes à des parties de 2 heures.
Ouais, mais ça, enfin, 2 heures de jeu, ça reste assez long. C'est un
jeu
vraiment
expert. Parce qu'au départ, tu lis les cartes, quoi. Tu découvres le jeu, tu prends une demi-heure pour expliquer les règles et après, tu vas découvrir les cartes les unes après les autres. Tu n'es pas habitué au symbole déjà et puis tu essaies de comprendre les intérêts. Une fois que tu as joué, que tu as fait 2-3 parties, déjà, les cartes, tu vois tout de suite leur intérêt.
Clairement, Satan ?
Juste une question comme ça. Jedi, il a gagné ?
Oh oui.
Oui,
à chaque fois.
Mais pas toutes.
Ah.
Non. Mais il t'a battu tout le temps ?
Non, justement.
Ah, le point Jedi est respecté. Le moins, il a gagné au moins une fois.
Je pense qu'il faudrait que Jedi vienne un jour pour nous confirmer ce fait quand même. Parce
c'est le 26 mai, j'ai vérifié tout à l'heure.
sur l'appli.
Juste pour un petit truc, c'est que Jedi, les seules fois où je peux gagner, c'est quand c'est notre première partie à l'un et à l'autre. Et toutes les parties.
C'est là où t'as une chance.
Voilà, j'ai encore une chance et celle-là, notre première partie.
Je vais faire un appel. Si Jedi, tu écoutes l'émission, je fais un appel pour que tu viennes intervenir dans l'émission, dans la prochaine émission ou la suivante quand tu seras dispo.
Sinon, je viens te chercher, je te ramène par les fesses.
Clairement. RM Léo, tu as testé aussi, j'imagine que tu as testé ce jeu.
Et non, et puis ça me donne absolument pas envie quand je vois le graphisme, quand je vois le plateau de jeu.
Incroyable.
J'ai de moins en moins envie d'être très très gros jeux. Outlive a été vraiment l'exception dans les gros jeux récents. J'ai
Exodus aussi, tu vas faire exception.
Oui, non, mais
c'est un moyen jeu.
Serge, si tu nous écoutes, c'est un moyen jeu. On a traité ton jeu de moyen jeu. Comment c'est possible ? Arrête.
Et lui, il va pas te dire que c'est un très gros jeu. Hein,
oui, non, pour lui, c'est un jeu. C'est un jeu enfantin, familial plus. Ok, Terraforming Mars. Oui, reprend par
exemple. Juste une petite chose aussi. Donc, pour les amateurs de science, c'est que justement, les règles expliquent toute la. Il y a plein d'explications physiques sur dans les règles. Il faut savoir que la carte de Mars que vous trouvez très très laide est une vraie carte de Mars.
Ah oui, non,
qui correspond
attends.
Réellement au, au
attends, principe. point très laid. Le truc, c'est qu'on ne dit pas que la carte est moche. On dit que le graphisme qui entoure est moche.
Ouais. Les illustrations, ça va, ouais. Mais le jeu est tellement cohérent et tellement prenant que c'est pas grave. En fait.
Et c'est ça qui est fou, c'est que toutes les règles expliquent... en tout cas, quand vous lisez les règles, vous avez plein de petits points qui indiquent, qui vous expliquent pourquoi, quand on arrive à 0 degré de température, on gagne... on peut poser un lac de plus, par exemple. Voilà. Oui. Ça c'est le truc simple, hein, évidemment, la glace fond, donc ça
non,
fait
non, mais il y a plein d'éléments comme tout, ça. Tout est justifié et justifiable dans le jeu, et ça c'est cool. Et c'est, comme disait Kétrus tout à l'heure, sur certaines cartes, il y a une explication scientifique qui est avérée et qui est expliquée.
Non, mais c'est un vrai tour de force, en fait, ce jeu.
Ouais, clairement.
En y réfléchissant, c'est au niveau de la conception et de la cohérence avec son univers, c'est incroyable. Ils n'ont pas dû dormir, les gars.
C'est pour ça qu'ils ont mis 4 polices de caractère.
C'est un jeu suédois, donc je ne connais pas très bien la qualité des Suédois en termes de maquettes.
Regardez bien, ils font des trucs plutôt bien.
Voilà. et plus pour la qualité du jeu fait qu'il a quand même été nominé pour le Spiel, hein, au niveau expert. Et c'est là où, franchement, moi, c'était mon préféré.
Ouais, c'est bizarre, du coup.
C'est plus bizarre quand tu vois les choix du jury ces dernières années, surtout au niveau du expert. Et là, c'est vrai qu'on est dans le vrai, vrai gros cube, hein, qui le méritait clairement, mais voilà.
En fait, les prix deviennent plus du familial plus. Je me comprends quand je le dis, j'espère que vous me comprenez aussi. Mais on s'éloigne un petit peu des gros jeux experts. Je pense qu'ils devraient recréer une vraie section expert plus pour ce type de jeu.
Il y a un prix qui s'est créé comme ça en France pour justement, parce qu'ils en avaient marre que dans les catégories experts, c'était du semi-expert. Et là, il y a Martin Wittberg qui a créé un prix vraiment pour les très très gros jeux, très très spécialistes.
D'accord, voilà, je te donne des devoirs pour la prochaine fois. Tu nous feras un petit point sur les vrais jeux experts qui ont été nominés par ce prix dont on n'a pas le nom là quand on en parle tout de suite. Kétrus.
Ouais, ça me fait penser à ce qu'a dit Tom Warchex là sur le Flip. Il était membre du jury, non, ça
Au Flip, ouais.
Ouais, et en fait, il a dit qu'il a adoré tous les jeux qu'il a testés, mais il faisait remarquer qu'en fait, ils avaient de plus en plus de mal à avoir des vrais jeux pour enfants, et pas des jeux qui sont familiaux, en fait, et des vrais jeux vraiment pour enfants, et que ça devenait de plus en plus rare. Peut-être qu'il y a une montée des jeux un peu plus experts, parce que ça s'adresse à une catégorie de
personnes qui ont l'habitude de jouer et qui veulent faire peut-être donner cette habitude-là. Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est un point intéressant. Ok, t'avais fini sur Terraforming
Justement, juste pour dire qu'il y a une extension qui est annoncée. Hein,
déjà,
voilà. Alors déjà, le jeu marche bien, il se vend bien. Déjà en France, en ce moment, il est en rupture d'ailleurs. La version française est en rupture, on l'aura de nouveau en mois d'octobre. Et donc, il y a une extension qui est annoncée, je crois, pour SN, qui s'appelle Hellas et Elysium, qui va... c'est des autres parties de la planète.
Ah, ok, d'accord.
Il y a la partie, justement, hein, Hellas, c'est...
J'ai voulu faire mon intéressant, mais regarde pas comme ça.
Hellas, c'est la partie pôle sud de Mars, et Elysium, c'est l'autre côté, c'est le côté opposé de l'équateur.
D'accord.
Et donc, ça sera, dans cette extension, il y aura juste deux nouvelles maps, mais avec justement des dispositions et des objectifs, parce que j'ai pas parlé des objectifs et des récompenses, etc. Enfin, il y a plein de possibilités de gagner des points. Et donc, du coup, avec effectivement de nouveaux moyens de refaire des parties. En plus des cartes, il n'y a pas de nouvelles cartes pour l'instant.
D'accord.
Mais déjà, les 208 cartes plus deux nouveaux plateaux, franchement, ça va
permettre. Est-ce que du coup, les cartes seront, j'imagine qu'ils vont faire attention, mais est-ce que les cartes et les objectifs qui sont dessus vont pouvoir s'adapter aux nouveaux plateaux et ainsi de suite?
Clairement.
Ok, Kétrus, tu voulais réagir ?
Non, il n'y avait pas une autre extension qui s'appelait Venus Next ou un truc comme ça, non ?
Mais écoute, moi, je ne l'ai pas vu. J'étais voir le site du distributeur et de l'éditeur. Moi, ce qui est vraiment annoncé, c'est Elysium.
D'accord. Je l'ai vu passer hier, en fait.
D'accord. C'est
peut-être un truc sur le Facebook de l'éditeur.
Alors,
je crois.
Moi, j'ai entendu. Je crois que c'est d'ailleurs Jedi qui m'a parlé d'un truc de Venus, mais c'est pas celui-là.
C'est celle d'après, en fait.
Peut-être.
Ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On est sur quel... Tu peux rappeler les auteurs rapidement?
Alors,
et le tarif?
Alors, les auteurs, c'est... l'auteur, c'est Jacob Frixelius. C'est son frère qui fait l'illustration. C'est une grosse... L'éditeur, c'est Frix Game. C'est toute une longue famille. Hein. Ils sont 10 frères et sœurs, plus les parents. C'est eux qui ont édité le jeu. Mais c'est ça.
Ils sont tous daltoniens.
Vous allez rire, mais dans cette famille-là, quand tu regardes le site de l'éditeur, il y en a deux tiers qui sont graphistes.
D'accord.
Ouais, c'est pas marrant en fait. c'est effrayant.
Son graphisme est suédois, tu vois. Ça change tout en fait.
En fait, voilà. Ils ont oublié la vis E22 pour changer de police d'écriture.
C'est de 2 à 5 joueurs. Ils jouent aussi bien, très bien à 2 d'ailleurs, et c'est encore bien tendu. Et c'est alors le prix éditeur, le prix distributeur est à 60€. Normalement, vous le trouvez à 50.
Quoi. Ouais, voilà. Ça reste quand même du gros jeu, mais rempli de matos.
Ah ouais.
Enfin, la table est remplie de matos et c'est effrayant presque. Ok, merci beaucoup pour cette chronique. Je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce mois-ci. On a bien parlé de jeux et c'est plutôt cool. Je vous remercie tous. Je vous rappelle que la Ligue des Joueurs Ordinaires est une émission produite par Radio Kawa, qu'on remercie. Je remercie Inks de mettre encore une fois la Ligue en jeu pendant que moi je me casse partout faire d'autres choses. Retrouvez-nous sur radiokawa.com dans la section VRAC, mais aussi sur iTunes et d'autres sites de téléchargement de podcasts qui sont bien à l'écoute. Je vais dire au revoir à mes chroniqueurs. Au revoir, Irène Mello.
Au revoir.
Merci à toi pour cette présentation de La Route des Épices. Christophe, merci.
Bronzez bien.
Oui, toi tu as bronzé, j'en suis sûr. Satan, merci. On se fait une partie bientôt de ce
MC1%.
Et Kétrus, où est-ce qu'on te retrouve, Kétrus? Je le fais qu'à toi, parce que je le sais.
Toujours Radio Kawa, Whisperos, donc toutes les semaines pendant la saison 7 de Game of Thrones, tous les samedis, et aussi Comics Outcast de temps en temps.
C'est plutôt pas mal. Ok, merci à tous. Retournez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, bien sûr, @laLigueDesJoueurs, et sur Twitter, @laLigue aussi. N'hésitez pas à vous faire part de vos jeux, de vos scores, de ce genre de choses, c'est plutôt intéressant. Et je relance mon point de Jedi. Jedi, il vient vite dans l'émission pour faire ton petit saligo envers Christophe qui en a besoin.
Tu détestes qu'on l'appelle Jedi. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bah, on va continuer là. Ok, merci à tous. On vous retrouve peut-être le mois prochain, peut-être plus rapidement que prévu, je sais pas, c'est une petite surprise qu'on essaye de prévoir, on n'est pas sûr de ça, mais voilà, et sinon on se retrouve dans un mois, jouez bien, éclatez-vous bien, bronzez bien, ciao ciao ciao,
bye bye,
salut. Ciao.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud!
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
Salut, c'est Bipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.